Alors, pour donc moi c'est Jean, je vais introduire brièvement le thème de la soirée avant de passer la parole à Lia. Donc moi c'est vrai que en fait comme je vous disais au départ, tout le travail de recherche de l'ethnocafé vise à, enfin moi c'est ce qui me motive et ce qui me fait du bien, à être dans une relation de. À penser et à être dans une relation de soins qui pourrait être qualifiée de poétique. Et du coup, alors moi j'ai vraiment un gros bagage maintenant théorique après des 20 ans de travail quotidien là-dessus. Et là, je sens vraiment la maturité grâce à tout ça, grâce à tout ce décalage de tous ces auteurs. Je crois que c'est l'intérêt des auteurs, c'est qu'ils amènent un décalage et du coup, la porte est ouverte à la découverte et au changement. Là, je sens vraiment une maturité aussi dans le projet pour aller dans le concret d'une relation thérapeutique qui serait poétique. Et du coup, alors évidemment, on a nos idées, mais c'est toujours intéressant d'aller voir comment font les autres, de trouver des inspirations, de lire des auteurs qui sont plus directement, moins des théoriciens larges, mais plus des auteurs du domaine du soin, notamment du soin psychique. Hein. C'est sûr que alors, le soin, nous, on l'aborde de façon large, mais ce qu'on travaille est quand même très lié au soin de ce qu'on, enfin, qu'on pourrait qualifier largement du soin psychique. Et du coup, on cherche un peu des connivences, des correspondances. Enfin, moi, je suis très aux aguets des soignants qui sont dans ce champ-là. Alors, j'avoue que les connivences sont assez rares pour dire les choses. Je trouve rarement de. Enfin, je trouve souvent qu'on est loin de ce que je vois parfois notamment les soignants qui interviennent auprès de mes patients. Mais malgré tout, il y a eu des rencontres. Donc, on a fait des soirées, notamment sur la Gestalt thérapie. Je pense que la Gestalt thérapie, il y a beaucoup de, il y a des, oui, il y a des, il y a des vrais points communs. On a fait une soirée sur l'éco-anxiété avec un psychiatre qui était intéressante aussi. Et en tout cas, moi, dans ma recherche sur des thérapeutes qui travailleraient dans le même sens que l'on vise. Il y a eu, je pense que c'est toi, Lia, qui m'en a parlé il y a quelques années, la rencontre avec Marshall Rosenberg, enfin la rencontre, il est mort, le pauvre, je n'ai jamais vu, mais voilà, tu vas en parler. Et alors moi, juste, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de violence et de non-violence, alors moi, j'ai jamais vraiment lu la chose comme ça, c'est-à-dire que j'ai, bon, Rosenberg, il est psychologue.
C'est lui, tu l'as invoqué.
Et du coup, c'est vrai que moi, dans ce terme de communication non violente, moi, des fois, je me suis demandé pourquoi il appelait ça comme ça, parce que c'est plutôt, je trouve, c'est un dialogue pour la vie ou un dialogue pour être bien. Enfin, voilà, à mon sens, ça, en tout cas, le thème qu'on amène ce soir me paraît nettement. Alors ça, évidemment, ça parle de gestion de la violence, mais ça me paraît nettement au-delà. Et moi, j'entends vraiment une façon de prendre soin de l'autre et de prendre soin de soi. Du coup, Lia, je te laisse la parole.
C'est très intimidant de parler devant une telle assemblée. Donc, comme je vous disais, je vais essayer de vous donner une approche très humble avec ce que j'ai pu aussi peut-être comprendre ou relever de la vision de Marshall Rosenberg. J'ai essayé, c'était pas simple honnêtement de faire cette intervention parce qu'il y avait beaucoup de points, de questions, et en même temps je voulais pas faire un cours non plus parce qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour pratiquer, et je savais pas non plus si j'allais m'adresser à des gens qui connaissaient ou pas du tout, donc ça a vraiment pas été simple pour moi de choisir les axes. Donc j'ai juste essayé de rendre compte peut-être de quelques notions que Marshall a pu mettre en forme. La communication non violente. Donc l'homme girafe, je l'appelle Marshall Rosenberg. Donc c'est un outil de communication qui a été mis en place en 1960 par Marshall Rosenberg. Il est arrivé en France assez tardivement dans les années 2000, Donc ça a mis 40 ans pour venir jusqu'à nous. Et donc lui, il a fait des études notamment de, il était docteur en psychologie clinique, Marshall Rosenberg, mais bon, je sais plus si j'en parle ou pas, mais c'est quand même beaucoup éloigné, on va dire, de la psychologie clinique. Et donc il est né lui en 1934. Je vous donne juste quelques petits éléments biographiques pour situer. Il a grandi dans la banlieue de Détroit et il était plutôt lui dans un environnement apparemment aimant, plutôt stable. Mais ses parents étaient d'origine juive. Et en fait dans sa jeunesse notamment, je crois, parce qu'ils ont déménagé, donc une fois qu'ils étaient qu'ils ont déménagé dans cette banlieue-là, il a été confronté à des violences antisémites, très violentes justement, et qui vont beaucoup, beaucoup le marquer, et qui vont aussi marquer un petit peu le point de départ de toute une réflexion autour de l'origine de la violence. Et je me souviens notamment d'une anecdote où après une agression, voilà, où il a vu un petit peu le sourire un petit peu de jouissance sadique sur un des agresseurs, il est rentré chez lui et il a vu son père. Je crois que c'était son père qui donnait
un oncle. Était enfant, hein,
c'est ça, c'est qu'il était enfant. C'est ça, et du coup qui donnait à manger voilà, à sa grand-mère qui était invalide. Et il a vu le même sourire et il s'est demandé comment en fait un être peut éprouver autant de plaisir soit à détruire, soit finalement à contribuer pour l'épanouissement et la croissance de la vie, quoi. Et voilà, il a fait, du coup, il a vraiment construit sa réflexion un petit peu autour de ces points marquants. Et il s'est toujours demandé finalement qu'est-ce qui pouvait motiver un individu à, entre guillemets, être violent et un autre, voilà, à faire grandir, c'est à préserver en fait la force vitale qu'il y a en chacun de nous. Et donc il a même écrit apparemment, ce que j'ai lu là, une dissertation sur la psychologie criminelle quand il était au lycée. Voilà, et puis après donc il a fait des études en thèse de psychologie clinique, et il a été très influencé par deux figures dont je vais vous dire quand même brièvement de quelques mots, parce que apparemment ça l'a vraiment beaucoup influencé. La première, c'était le sociologue Michael Akin, je sais pas si vous connaissez. Donc lui, il a beaucoup beaucoup travaillé sur les maladies mentales, et notamment il a remis en cause beaucoup de choses par rapport à ça. Il a mis en relief le fait que une maladie mentale était considérée voilà, en fonction des normes sociales qui déterminaient et qui allaient déterminer nos valeurs, et donc la manière dont les institutions allaient qualifier telle ou telle pathologie. Et donc ce qu'elle va les juger déviant ou établir tel ou tel diagnostic en fonction vraiment de la norme sociale dominante. Et donc il a un petit peu détricoté tout ça finalement. Et puis il y a le psychologue Carl Rogers, je ne sais pas si vous connaissez, c'est lui qui a été fondateur notamment de l'écoute active, tout ça. Et lui, ça a été, je crois, un des professeurs de Marshall Rosenberg. Et lui, en fait, Carl Rogers, il a beaucoup, beaucoup travaillé, participé au développement de la thérapie centrée sur la personne. Et c'est une pratique vraiment, moi, que je trouve très intéressante. Et je trouve que Marshall a beaucoup pris aussi de cet enseignement, qui défendait vraiment l'idée que chaque être humain pouvait mobiliser toutes ses propres ressources pour vraiment atteindre son plus haut potentiel, les plus hautes vibrations de vie qui étaient en lui, mais à condition qu'il évolue dans un milieu qui était soutenant et empathique. C'était vraiment les conditions de base pour que chacun puisse grandir. Et donc il a notamment travaillé sur la notion de congruence. Je ne sais pas si ça vous parle, ce terme. C'est la congruence, c'est chercher une forme d'adéquation entre en gros la perception qu'on a de soi et l'image qu'on va renvoyer dans le monde. Voilà. C'est une sorte de coïncidence, c'est-à-dire coïncider, qu'on ne soit pas dans cette espèce de dissonance voilà, cognitive. Donc voilà, donc il a beaucoup travaillé là-dessus, donc sur ces formes d'authenticité. Et d'ailleurs, la congruence, c'est intéressant, c'est un concept qu'il applique donc aussi bien pour le patient que pour le soignant. Et il en a beaucoup parlé aussi, enfin, c'est un concept que je trouve très très intéressant du soignant qui va vraiment lui aussi s'inclure en tant que personne vraiment dans le soin et être conscient aussi de tous les mouvements, de toutes les forces psychiques, émotionnelles qui le traversent. Et sans forcément le dire à l'autre, mais il va au moins en être conscient. Et c'est comme s'il y avait une sorte de double caméra un petit peu sur soi, sur l'autre. Donc voilà ce qui évitait du coup d'envoyer aussi un message dissonant à l'autre en portant des masques ou une distance excessive ou un déni de ce qu'il ressent. Et donc tout ça, ça avait évidemment pour but de favoriser la qualité de la rencontre thérapeutique. Donc, ces deux approches-là vont vraiment avoir une grande influence sur Marshall Rosenberg et qui va lui-même intégrer un petit peu tout ça dans sa propre pratique de la CNV, à la fois dans sa manière de refuser toute forme de diagnostic et d'interprétation, et des pathologies notamment, mais aussi en cherchant le moyen d'aider les êtres à retrouver leur nature première, ce qui allait vraiment contribuer à l'épanouissement de la vie en eux. Et il avait une vision que je qualifierais d'un peu rousseauiste à la base, je trouve, Marshall. C'est-à-dire que pour lui, la nature première au final est ouverte et compatissante. Et quelque part, hein, voilà, Rousseau disait que l'homme était bon par nature et que c'était la société qui allait le corrompre. Et je trouve que Marshall a un petit peu la même vision. En gros, pour lui, c'est un petit peu tout nos systèmes d'éducation, nos blessures, notre système culturel, enfin tous nos conditionnements en fait, qui allaient quelque part nous éloigner de notre nature qui est une nature de contribution et de bienveillance spontanée. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il dit Marshall ? Il dit « La communication non violente, c'est la combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire en communication et de moyens d'influence qui servent mon désir de faire trois choses. Déjà, me libérer du conditionnement culturel qui est en discordance avec la manière dont je veux vivre ma vie. Acquérir le pouvoir de me mettre en lien avec moi-même et autrui d'une façon qui me permette de donner naturellement à partir de mon cœur. Et acquérir le pouvoir de créer des structures qui soutiennent cette façon de donner. » Voilà. Donc, bon, tu parlais du terme non-violent. Justement, il faut savoir que Marshall a été un peu hésitant sur ce terme et jusqu'à la fin de sa vie. Bon, à la fin, il a dit qu'il s'était mis en paix avec ce terme et que ça lui allait parce que ça s'inscrivait un petit peu dans la lignée de Gandhi notamment. Mais effectivement, il a un petit peu hésité. Et en fait, c'est un terme qui renvoie directement à Gandhi et qui vient du sanskrit. Alors, j'espère ne pas mal le prononcer. Ahimsa. Voilà, on va dire ça. Comment ?
Non-violence.
Alors voilà. Et en fait, le truc, c'est que ce mot a pas de traduction vraiment satisfaisante en français et donc en anglais. Et on pourrait le comprendre, en fait, ça peut se traduire comme une absence de façon de nuire. Voilà, c'est ça que veut dire ce terme. Donc, mais voilà, et du coup, Marshall, je pense, a beaucoup hésité, peut-être non seulement parce qu'il y a le mot « violence » déjà dans le titre, mais aussi parce qu'il y avait une négation, la non-violence. Donc, je pense que lui, vraiment, il a voulu se poser plus... dans la continuité d'un héritage avec ce terme-là, c'est pour ça qu'à la fin il a dit qu'il s'était mis en paix avec ce terme-là. Mais vous voyez que c'est, même pour lui, c'était pas simple, vraiment. Et donc, selon lui, donc, la violence n'est pas notre nature, mais l'expression de la violation de notre nature. Voilà. Ça va ? Il y a des questions ? Ça va ?
Moi, je pense justement à la violence, parce qu'on peut être violent sans être criminel. Parce que je pense que dans la création, moi, j'exprime des choses d'une manière violente. Quand on peint, quand on dessine, quand je regarde un paysage, je regarde un paysage qui est fort, qui est quelque chose de...
De manière brute, quoi.
Voilà.
Est-ce que je peux juste remettre en question ton début? J'ai assisté à une fois à une conférence très très intéressante qui justement remettait violemment en question la théorie de Rousseau. Et lui, il disait que l'humanité, que la violence, elle est en nous, quoi qu'il arrive, et au départ. Et qu'au contraire, il faut apprendre à la dominer. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et souvent, maintenant, moi, je me disais plutôt rousseauiste, mais pour moi, ça a été une grosse remise en question de dire que, en parlant d'enfant tout à l'heure, un gamin, si tu le laisses non sociabilisé, il sera très violent. Ça rejoint peut-être des fois ce que je disais, quoi, les enfants, et qu'au contraire, ça fait partie de l'éducation d'arriver à contrôler ou dominer cette émotion. Et l'autre fois, bon, j'ai travaillé une fois au Parc des Nord avec Catherine Dolto, elle semblait assez d'accord avec ça, mais il faudrait que... Ce serait quelque chose que j'aimerais approfondir. Pour moi, c'était une très grosse remise en question.
Mais je comprends. Et en fait, pour moi, c'est une question philosophique majeure, non résolue, et qui pourrait donner encore une soirée spécifiquement sur ce thème. Parce que là, moi, je parle juste de... En fait, on est obligé, je pense, pour comprendre la pensée de Marshall, de... pas d'adhérer, mais de comprendre lui d'où il part dans sa propre pensée. Mais après, moi, honnêtement, j'adhère pas spécialement... Enfin, c'est en questionnement, quoi. C'est en questionnement.
Juste, Hannah Arendt, pour une troisième voix, elle dit qu'il n'y a pas de nature humaine. Il n'y a pas de nature humaine et qu'il n'y a que des gens différents, que des histoires, que des contextes. Donc après, tout est ouvert.
Oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une question ouverte.
Non, c'est intéressant. Parce que
c'est vraiment une question pleinement ouverte. Mais en tout cas, pour Marshall, lui, c'est vraiment dans cette pensée que la violence va être effectivement une violation de notre nature, et je vais revenir parce qu'en fait plus spécifiquement de nos besoins, et justement je vais parler de ça pour voir comment lui il aborde un petit peu les choses. Ça va pour tout le monde? Donc lui il voulait utiliser la CNV, alors c'est un projet qui était très ambitieux je pense pour lui, hein, parce que à la fois pour donc harmoniser les relations humaines, encourager la coopération entre les êtres, atteindre un espèce de degré de compréhension mutuelle et pouvoir se relier sans que viennent interférer tous nos jugements et les conditionnements auxquels notre culture et notre éducation nous ont un petit peu soumis. Mais c'est un processus aussi, évidemment, et pour moi d'ailleurs avant tout de soi à soi, évidemment. Donc pour moi-même on devrait commencer avec mes élèves, parce que je donne un petit cours de temps en temps à Clermont-Ferrand, et quand j'aborde cette question, je leur dis surtout ne rentrez pas chez vous en essayant d'appliquer la CNV sur votre conjoint. C'est de soi à soi, et c'est vraiment des années pratiques, quoi. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve ça intéressant. Il y a vraiment plusieurs axes, donc de soi à soi, de soi à l'autre, et de soi au monde, de soi au multiple. Et Marshall d'ailleurs avait, si j'ai le temps, je ne suis pas sûre, mais je parlerai dans la troisième partie un petit peu de ses ambitions par rapport à la diffusion dans le monde et à comment il voulait vraiment intégrer la CNV dans plusieurs structures, qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient... comment il a travaillé aussi dans des zones en guerre, etc. Donc, c'est un autre sujet. Et pour lui, et ça c'est vraiment un point que personnellement je trouve très très intéressant chez Marshall, c'est qu'il a vraiment cherché ce qui pouvait constituer le socle commun de notre humanité. Et je pense que ça a été sans doute le travail aussi de beaucoup d'anthropologues, de beaucoup de philosophes, peut-être même de poètes, de chercher finalement, se relier, c'est bien beau à dire, mais comment? Et pour ça, il fallait trouver vraiment quel était quelque part le ou les principes vitaux qui nous animaient tous. Et c'est-à-dire, en fait, qui allaient vraiment nous donner ce sentiment d'appartenance, donc d'appartenir à une même famille humaine, et à pouvoir quelque part reconnaître l'autre comme étant aussi en moi et moi comme étant aussi en l'autre. Et d'ailleurs, quelles que soient ces particularités, tout ce qui va fonder notre identité culturelle ou sociale, tous les mœurs, tout ça, qu'est-ce qui peut dépasser ça? Donc toutes ces représentations très très variables qu'on construit et variables et mouvantes. Et donc comment En fait, on peut penser l'autre à partir de ce qui nous unit de plus fondamental. Et ainsi, peut-être qu'il y aura un sentiment plus naturel, finalement, de fraternité qui va pouvoir émerger et que la dignité de chacun va pouvoir être reconnue et son intégrité préservée. Tout simplement parce que dans cette approche, si vraiment on arrive à se relier en profondeur dans ce socle commun, on va reconnaître la valeur supérieure de ce qui nous rend semblables et on va aussi enlever couche après couche ce qui va nous amener à des confrontations. Voilà, j'en parlerai peut-être après, mais voilà, j'en parlerai peut-être après. Donc pour Marshall, cet invariant, ce sont les besoins. C'est-à-dire que nous avons tous, pour lui, les mêmes besoins. Alors attention, soyons précis, les besoins sont universels, mais ils ne s'expriment pas tous de la même façon et ils ne s'expriment pas tous au même moment. Vraiment préciser les choses. Mais par contre, nous avons tous les mêmes besoins. Oui.
Excusez-moi, après oui. Je vous promets que je ne ferai plus d'intervention terroriste. Oui, pas fait une firaine. Ça, c'est très contesté actuellement, parce qu'en termes de marketing, on appelle ça la pyramide de Maslow, avec les besoins. Et alors ça, maintenant, c'est de plus en plus critiqué, qui dit que ça ne tient pas la route, parce qu'il met les choses, ils nous ont renversé. Mais à l'occasion, on pourrait en rediscuter
lui,
ensemble.
Mais lui,
il hiérarchise,
la pyramide.
Voilà, c'est ça. Madame. Parce que Maslow, il hiérarchise, et en plus, il y a plusieurs besoins fondamentaux, mais en fait, Marshall, tous les besoins sont valables, et sont à mettre un peu... Il n'y a aucune hiérarchie entre les besoins. La liste des besoins n'est jamais exhaustive. C'est-à-dire que même en CNV, là, quand on va voir sur les sites et tout, ils précisent ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste arrêtée des besoins. En fait, on pourrait toujours en trouver plus quelque part. Donc, c'est encore en mouvement, quelque part, même 60 ans après le début de la CNV, finalement. Mais effectivement, il n'y a aucune hiérarchie entre les besoins.
Qui sont reliés entre eux, que quand on... T'en as attrapé un, en fait, derrière un besoin, t'en as un autre derrière.
C'est tout un processus aussi. Dans cette théorie,
oui.
Je connaissais pas, je l'écoute.
Regardez la violence dans l'Iliade.
La violence dans l'Iliade ?
Regardez la violence dans l'Iliade. La violence dans l'Iliade. Vous l'avez lu ? L'Iliade ? Vous l'avez vu comment... écoutez, j'ai rarement vu une bouteille. Tous les dieux s'entretuent sans aucune pitié. Sans aucune pitié, se traînent en chariot, sans aucune pitié. Je pense qu'à la base, l'humanité est comme ça dans les temps très anciens.
En tout cas, la mythologie grecque.
Oui, mais dans les temps très anciens. Je pense que Adam était le chef du clan parce qu'il avait une violence totale, c'était le chef à la violence. Il devait tuer ses opposants, je pense. C'est vraiment. Je pense que dans le certain rapport antiquaire, il y a une violence qui s'institue même entre les gourous au Tibet. Il y a des combats entre gourous. Entre magie, satanisme, magie noire et magie blanche, c'est complexe.
Peut-être qu'on va laisser l'IA dérouler, puis...
C'est ma faute.
Non, c'est bien.
Non, c'est bien. Donc les besoins, comme principe de base de notre énergie vitale et le tronc commun de notre humanité. Donc pour lui, en fait, toute émotion... et l'expression directe d'un besoin qui est nourri ou qui ne l'est pas. Il faut bien dire, le besoin, il est source, c'est le besoin souche. L'émotion découle d'un besoin et pas l'inverse. C'est pas l'émotion qui va créer le besoin. Par exemple, je sais pas moi, si on prend l'exemple d'un besoin de d'amour par exemple qui est pleinement nourri, ça va nous plonger dans une extase profonde, et si au contraire ce besoin n'est pas nourri, on, on va tomber potentiellement dans des sentiments profondément dépressifs et tristes, etc. Donc, vous voyez, en fait, le même besoin, en fonction de s'il est nourri ou pas, pour Marshall, il va pouvoir créer des émotions extrêmement différentes. Donc, quand ses besoins sont satisfaits, en gros, quelque chose de la vie va se déployer dans sa version la plus réalisée et la plus ouverte. Et va parfois donc toucher un point d'assouvissement total. Mais à l'inverse, donc, quand les besoins sont insatisfaits et que les solutions pour les nourrir nous semblent limitées ou inaccessibles, donc les solutions, en gros, c'est les actions à mettre en place, c'est ce que lui, il appelle les stratégies. Et ben, du coup, on va parfois choisir des solutions, notamment d'expression dramatique pour manifester cette frustration. Et ça, il faut bien le comprendre, donc, parce que c'est vraiment le grand principe de Marshall, c'est-à-dire que pour lui, justement, la violence est l'expression tragique de besoins non satisfaits. C'est ce qu'il dit. C'est la manifestation de l'impuissance et ou du désespoir de quelqu'un qui est si démuni qu'il pense que ses mots ne suffisent plus pour se faire entendre, alors il attaque, il crie, il agresse. Voilà. Voilà, moi j'aime bien cette phrase de quand vous savez, quand on se répète mais quel con et tout, on pourrait dire que c'est un cri d'amour perdu. Voilà. Quelque part. Donc bon, juste, j'ai quand même voulu vous donner un petit peu, comme je ne savais pas trop voilà, que, si vous connaissiez ou pas, quelques petites caractéristiques des besoins quand même. Donc ils sont universels, c'est-à-dire on a tous les mêmes et on ne s'exprime pas au même moment et de la même façon. Donc ils sont la source de notre énergie vitale et nous épanouissent. Ils sont tous valables et nécessaires, il n'y a pas de bons ou de mauvais besoins. Ils sont abstraits, autonomes, non reliés à un objet, une situation ou une personne. C'est-à-dire, j'ai pas besoin que tu me rendes libre, j'ai besoin de liberté. Voilà. Ils peuvent être nourris par de multiples stratégies et ils sont à l'origine de nos émotions. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit... parce que pour moi, cette notion de besoin, c'est vraiment la source. Et... soyons honnêtes, enfin, moi notamment je vois ça beaucoup dans les cours que je donne, mais même dans ça paraît simple en fait comme ça, et quand on parle, bon, bah, il suffit de se relier à nos besoins et puis à ceux de l'autre, et puis ah, c'est bon. C'est extrêmement difficile. Moi je pense vraiment la CNV, je l'aborde maintenant à quel point c'est un processus qui est exigeant, qui est dur, qui va demander vraiment une vraie gymnastique intérieure. Donc voilà, mais voilà, en tout cas cette base paraît simple, mais appliquée c'est plus complexe. Donc son principe vivifiant à la CNV, en gros, il pourrait être résumé ainsi, alors vous m'excuserez le raccourci grossier. Donc identifier les besoins qui sont à l'origine de nos émotions et de nos réactions, et traduire les jugements qui surgissent en nous de manière automatique et qui sont influencés par notre culture, notre histoire, notre langage conditionné, etc. Donc je vous relis une citation de Marshall. La plupart d'entre nous n'ont pas été éduqués pour penser à leurs besoins. Mais quand ces derniers ne sont pas satisfaits, on nous a plutôt appris à penser à ce qui ne va pas chez les autres. C'est ainsi que nous qualifions de paresseux un enfant qui n'accroche pas sa veste au porte-manteau comme nous le désirons, ou d'irresponsable, un ouvrier dont le travail n'est pas conforme à nos attentes. Ces évaluations d'autrui sont des expressions indirectes de nos besoins insatisfaits. Elles risquent plus de provoquer la résistance et l'agressivité que de susciter le désir de satisfaire nos besoins. Voilà. Ça va pour tout le monde ? Ouais.
La différence entre j'ai besoin que tu ranges la pièce, ouais, j'ai besoin d'ordre, j'ai besoin de beauté, voilà, de sérénité, j'ai besoin d'ordre, ça serait plus entendu que j'ai besoin que tu ranges ta chambre.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et alors après, la question, c'est que faire quand l'autre a besoin de la liberté de mettre son désordre. Et là, bon courage. Mais oui, c'est
là que ça commence.
C'est là que commence le processus vraiment intéressant.
En pensant à la soirée, là, j'avais ma plus petite de mes filles qui range très mal les choses, mais bon. Et des fois, ça me
je passe beaucoup de temps rangé et je lui dis mais en fait tu ne ranges rien. Et elle me dit mais en fait quand tu me dis ça tu me donnes pas envie de ranger. Je me suis dit c'est exactement ça. Mais...
c'est un très bon exemple. Voilà. Donc en gros la CNV va pas s'attacher aux mots ou aux pensées qui sont exprimées. Elle va vraiment tenter de clarifier les causes sous-jacentes qui ont provoqué un comportement ou un discours. Et ça demande vraiment une déconstruction quasi totale des attitudes acquises qui vont nous pousser notamment au jugement. Donc d'évaluation et auto-dévaluation. Aux reproches aussi. Au langage d'obligation, hein, le fameux « je dois », il faut que ». Voilà, et à tout système en fait de punition et de récompense, en fait c'est surtout de ça dont Marshall essayait de sortir. Donc ce processus, comme je vous ai dit, il peut sembler simple, mais en fait il est ardu, il est exigeant, et il demande des années de pratique quotidienne pour être appliqué de manière fluide. Et même là, voilà, moi enfin il y avait une anecdote justement qui racontait, j'aime beaucoup Issa, maintenant, ouais.
Issa.
J'espère ne pas dire elle parce que c'est enregistré là, donc je ne vais pas. Et à un moment, donc il racontait une anecdote parce qu'il avait fait pas mal de stages avec Marshall Rosenberg. Et donc à un moment donné, dans un de ses stages, il le voyait, donc Marshall en train de qui s'était un peu isolé, puis il commençait à écrire des choses, et puis lui, il s'est dit, Issa. Ouais, il doit écrire des choses, mais tellement inspirantes, extraordinaires. Donc il allait le voir et il lui a demandé, mais Marshall, qu'est-ce que tu écris? Et là, il l'a regardé, il a dit, j'écris tous mes jugements sur vous. Et là, il lui a dit, mais comment, mais tu as encore des jugements, Marshall? Et là, il a éclaté de rire. Il lui a dit, mais évidemment que j'ai encore des jugements. Et après, c'était ce qu'il appelait Enjoy the Jackal Show, c'est prendre plaisir au spectacle, le chacal, en gros, à l'intérieur de toi. Donc voilà, il était en train de décrire, il disait, voilà, ça fait depuis ce matin que j'essaie de vous expliquer quelque chose, vous comprenez rien. Voilà, bon, vous voyez. Bon, voilà. Pour moi, oui, ben j'en parlerai plus tard de cette histoire de... Bon. Donc, pour Marshall, en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'on doit vraiment s'éduquer à la non-violence à travers une pratique régulière. C'est-à-dire, il n'y a rien d'acquis. Je ne sais plus qui parle, disait que ce n'était pas naturel. Pour Marshall, en fait, le langage, ce qu'il appelle le langage du cœur, est le langage naturel, mais notre langage habituel, celui qui a été construit au fil du temps par toutes les habitudes, j'allais dire, de conditionnement culturel ou autre, voilà, c'est devenu notre langage habituel. Et c'est ça qu'il faut déconstruire, qui nous paraît du coup pas naturel. Parce qu'au final, on l'a tellement intégré à un degré profond que c'est très compliqué voilà, ça demande un véritable effort. Et je ferai juste une parenthèse en disant que c'est pour ça, à mon sens, que les enfants sont aussi réceptifs à la CNV, je pense, parce qu'ils ont moins de... c'est moins,
moins
cristallisé chez eux, je crois. Et voilà, moi j'avais une mon ancienne belle-fille, je lui avais expliqué la CNV, notamment la différence entre la demande et l'exigence. Au bout d'à peu près 5 minutes, elle avait tout compris. Par contre, le père, là, c'était autre chose. En fait, ça m'a pris des semaines. Voilà, vous voyez. Donc les enfants, ils ont une sorte d'instinct naturel avec la CNV. Et donc il disait quoi? Donc Marshall, il disait, la non-violence ne se réalise pas mécaniquement. Elle est la plus haute qualité du cœur et elle s'acquiert par la pratique. Donc lui, il distingue deux formes de langage, je voulais quand même en parler un petit peu, qu'il appelle métaphoriquement le langage chacal et le langage girafe. C'est pour ça que je parlais de Tom Girafe et qu'on parlait de la petite girafe là-bas. Donc il a choisi vraiment ces animaux en fonction de leur symbolique, parce que le chacal, c'est un animal, on va dire, opportuniste, dont les lamentations incessantes peuplent jusqu'à, je crois que c'est dans la Bible, sont mentionnés dans la Bible, etc. C'est un animal qui va se déplacer dans les hautes herbes, donc qui va avoir une vision limitée. Et tandis que la girafe, c'est le plus grand animal terrestre, donc elle voit de haut. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est l'animal qui a le plus grand cœur au monde, des animaux terrestre, des mammifères. Et notamment, j'imagine, pour pomper jusqu'à son cerveau. Son cerveau, voilà. Ah ouais. Donc voilà pourquoi il a choisi un petit peu ces deux animaux. Et donc le chacal, en gros, il représente notre langage conditionné, fait de critiques, d'exigences, de comparaisons, de radotage, parce que le chacal radote beaucoup jusqu'à ce qu'il soit entendu, en fait. Voilà, de reproches, de généralités, c'est-à-dire les gens sont ainsi, tout le monde fait comme ça, etc. Voilà. Et la girafe, le langage du cœur, entre guillemets, donc en connexion directe avec les émotions et les besoins qui soutiennent notre élan de vie. Donc, il dit quoi ? Il dit... C'est lui qui dit ça ? Ouais, oui, c'était lui. Donc, il dit, deux grands types de communication coupent notre élan à donner du fond du cœur. Tout d'abord, ce qui peut s'interpréter comme une critique, et ensuite, ce qui ressemble de près ou de loin à une contrainte. Voilà. Donc, pour représenter ces deux animaux, il avait des petites marionnettes. Voilà, chacal, girafe. Il faisait hurler son chacal, donc il le faisait hurler tout le temps, comme ça, dès qu'il interrogeait quelqu'un et qu'il lui donnait une réponse chacal. Mais c'est vrai que moi je trouve que ces animaux, du coup il peut y avoir un peu le revers de la médaille après où on peut trop s'identifier à l'un ou à l'autre, mais je trouve que vraiment ça donne vraiment un aspect très abordable, très, très ludique, très joyeux même, et c'est très parlant. Et alors par contre, voilà, je précise quand même ça. C'est important de comprendre qu'on a en nous ces deux langages, comme l'anecdote que je vous ai racontée sur Marshall, et que le chacal doit être considéré avec tendresse et non pas dénigré ou ignoré. Parce que moi j'ai vu des gens qui jugeaient leur chacal ou le chacal des autres à fond, et ils ne se rendaient même pas compte que c'était une autre partie chacal d'eux-mêmes qui était en train de juger le chacal, et etc. Et c'est sans fin en fait. Donc en fait, ce pauvre petit chacal, moi j'ai tellement de tendresse pour lui. Donc voilà, il faut comprendre qu'il va être présent, remuant tout au long de notre vie, mais peut-être ce qu'amène la CNV, c'est que la girafe, donc la partie un peu plus connectée, on va dire, aux besoins, aux émotions, etc. de nous, peut venir l'écouter avec empathie et essayer de traduire ce qui s'y ressent, de traduire aussi ses jugements. Et peut-être que pour moi... Donc c'est pas du tout de supprimer ce pauvre chacal qui est en nous, mais c'est comme si le chacal il venait dans l'instant premier comme ça un peu nous saisir, et plus on pratique la CNV, j'ai l'impression, et plus ce qui se réduit c'est le temps. En fait, c'est plus une histoire de temporalité. Est-ce qu'on peut mettre des semaines voire des mois parfois à traduire justement à voilà, et ben en fait là ça va aller de plus en plus vite. Donc l'idée c'est pas de supprimer ça en nous, c'est pas de... Voilà, il y avait encore une de mes élèves, là, hier, je donnais un cours qui me disait « Oui, mais moi, pour moi, c'est un peu de l'hypocrisie, la CNV. » Je sais pas si c'est c'est l'hypocrisie, c'est que c'est pas de la CNV, en fait. C'est que c'est pas connecté. Et bon, on a parlé beaucoup de ça, mais elle pensait vraiment qu'il fallait presque tout édulcorer, tout adoucir, tout lisser, en fait, et que c'était ça, la CNV, et que du coup, c'était quasiment impossible. Et pour elle, ça lui paraissait aussi très hypocrite. Et voilà, donc bon. Donc voilà. Et donc, Marshall disait, le chacal est une girafe qui a des problèmes de vocabulaire. Donc voilà. Voilà, il dit aussi, Marshall, je précise que le langage girafe, ça va pas se rapporter, c'est pas des mots, justement. C'est pas que des mots, c'est pas qu'un vocabulaire employé, parce qu'une personne peut très bien exprimer des reproches et des jugements en suivant parfaitement le protocole et les codes de langage qui vont donner juste une forme acceptable à son discours, tout en restant dans un mode de conscience qui va être en fait très critique et accusateur. Donc un chacal peut se déguiser en girafe, le jical donc, et donc utiliser en gros un langage de paix si nous sommes en guerre à l'intérieur, ça n'a aucun sens évidemment. Donc en réalité, comme dans toute pratique, comme dans tout outil, aucun artifice ne peut fonctionner, ni les tentatives d'empathie qui sont pas réelles et qui sont pas branchées, on va dire, sur la bonne fréquence émotionnelle, ni un langage qui semble factice, ni rien qui ne soit pas au fond une expérience profondément incarnée, compréhensive et émotionnellement vécue. Donc l'intention de Marshall, c'était pas de masquer nos émotions en se réfugiant derrière un langage fade et insincère. Lui, il appelait ça mettre du miel sur la bouche. C'est de mettre du miel. Moi, j'aime bien. Je m'imaginais toujours le pot de miel comme ça, avec voilà. Donc mettre du miel sur la bouche. Et à ses yeux, et voilà, c'était essentiel de rester vraiment dans l'intensité de la vie. D'ailleurs, lui-même, apparemment, c'était quelqu'un de très intense. Et à l'inverse, la girafe, elle peut s'exprimer d'une manière non conventionnelle, très libre et spontanée. C'est ce qu'on appelle la girafe de rue. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment important. Enfin, j'ai quand même voulu préciser ça avant de rentrer dans le... que c'est la CMV, c'est un peu ce que tu disais, Isabelle, c'est vraiment avant tout un processus de transformation intérieure qui nous amène à changer de paradigme et pas une tentative de polissage qui nous conduit finalement à déguiser nos messages émotionnels. Et c'est pour ça que notre attention, elle doit avant tout se porter sur l'intention et la qualité du lien qu'on tisse avec autrui et nous-mêmes. Pour moi, la seule vraie question, mais chaque fois que j'essaie un outil, mais n'importe lequel, c'est qu'est-ce que ça donne concrètement. C'est-à-dire, moi, à un moment, j'en reviens à quelque chose de très pragmatique pour voir si ça me plaît, si j'estime que ça fonctionne. C'est est-ce que ça augmente la qualité de mes relations avec moi, avec les autres, ou est-ce que ça les diminue. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est la question que je me pose à chaque fois pour valider ou pas un outil. Ça va, je continue. Ça va, super. Donc ce processus, donc, comme on disait, peut être intérieur ou solitaire, de moi à moi, mais il fonctionne aussi dans un cadre relationnel, c'est un petit peu ce que j'ai voulu aussi mettre en avant ici, pour établir une meilleure compréhension et solidarité entre les êtres, qui arrive à justement transcender les différences qui nous séparent et permettre un point de rencontre central au niveau notamment de ce qui nous compose d'essentiel, c'est-à-dire des besoins. Donc cette manière de nous relier, ça va nous aider vraiment à dépasser ces paradigmes de vrai, de faux, de tort, de il a raison, j'ai tort, de bon, de mauvais, etc. Et nous aider du coup à déconstruire de notre vision aussi d'ennemi, de l'autre, puisque chacun à sa manière vraiment tente, même s'il tente parfois tragiquement, mais tente de contribuer au nourrissement de ses besoins et va ainsi manifester quelque chose d'universel. Et pour Marshall, on s'affronte au niveau de deux choses, notamment c'est des opinions qu'on a et des stratégies. Mais on s'affronte jamais au niveau des besoins. Et un besoin, on lui dit jamais non. Les besoins, ils sont pas interchangeables. Les stratégies, on peut leur dire non. On peut changer. On peut essayer plein de nouvelles choses. Et on peut dire non à la stratégie de quelqu'un. Mais en fait, le besoin, on lui dit jamais non. Et c'est ce qui permet du coup à un moment de créer une reliance qui ne soit pas dans l'affrontement. Et Marshall disait en gros, il disait, je vous le cite, on a le choix dans notre vie entre être heureux et avoir raison.
Mais si on a raison, on n'est pas heureux.
Ça va, je continue. Donc, en gros, il ne s'agit pas d'une pratique purement auto-centrée quand on veut l'appliquer dans un cadre relationnel dans laquelle l'autre serait absent ou comme éjecté de mes préoccupations. C'est pas mon besoin, mon besoin, mon besoin, car la pensée de Rosenberg, en fait, c'est vraiment une pensée qui est ronde, qui est circulante, qui est englobante et qui veut vraiment aller vers un autre et qui se sent concerné par l'autre. Donc la CNV, c'est vraiment une pratique qui va chercher, et c'est vraiment, je pense, que vous voulez, Marshall, à renforcer et augmenter la qualité des relations humaines et à raffiner vraiment le degré de connexion subtile entre les êtres, en générant aussi c'est une ambiance qui va être beaucoup plus empathique, dans laquelle chacun pourra exister dans son authenticité, sa vulnérabilité, et se sentir rejoint vraiment au plus intime. Et alors là, j'ai encore une citation de Marshall. La violence, qu'elle soit verbale, psychologique, physique, entre époux, entre parents et enfants, entre nations, toute forme de violence survient quand les gens sont incapables de se relier à ce qui se passe en eux. Au lieu de cela, ils ont appris à pointer du doigt les mauvais, à rejeter la responsabilité de ce qui leur arrive sur les autres. Au lieu de chercher à comprendre et à révéler la douleur, la peur et les besoins inassouvis cachés par les mots de l'agresseur. Ce phénomène de société est extrêmement dangereux, disait-il. Donc voilà, donc cette écoute mutuelle peut générer une volonté de contribuer positivement et qui va après se concrétiser par des actions qui vont être bénéfiques à toutes les parties. Je précise bien toutes les parties. Mais cette étape, en gros, c'est pas ça qui doit être visée. C'est pas... Comment dire ? L'étape de l'action, elle vient vraiment tout dernier. Et il y avait ce truc, et moi c'est ça que j'aime bien chez, là, chez Marshall, j'aime beaucoup cette notion qu'à un moment donné, on va juste chercher en priorité cette capacité à rester avec. Juste rester ensemble avec ce qui est vivant en nous. Rester ensemble avec juste dans la reliance de ce qu'on exprime, de ses émotions, de ses besoins, sans chercher tout de suite un résultat, sans chercher tout de suite l'action à poser, la solution. Il y a vraiment il y a vraiment presque cette lenteur, j'ai envie de dire. C'est une manière juste de faire corps ensemble dans un moment vivant.
Authentique
où on va juste augmenter quelque part notre capacité de reliance, l'ouverture à l'autre, à soi, et essayer déjà de se rejoindre quelque part et de se rejoindre en profondeur. Et ça, déjà, il y a quelque chose quand on arrive à faire ça, je trouve, qui vient nous décharger de nos tensions. Et après, la solution, elle... Je vais pas dire qu'elle se trouve toute seule, hein, parfois il faut être un petit peu actif, mais elle va mûrir, elle va se trouver, parfois se prendre des semaines, parfois des mois, parfois juste une heure, mais voilà, ça va arriver, mais c'est pas le plus important pour Marshall. Donc qu'est-ce qu'il dit encore ? Quand nous nous sentons mal, la présence d'une personne en contact avec notre souffrance n'a pas de prix. Il est d'ailleurs étonnant de constater l'effet qu'elle produit sur nous. Cela ne résoudra pas notre problème, mais ce type de lien rend plus doux notre cheminement vers une solution. Voilà, donc la position de Marshall, qui est basée vraiment sur des principes de non-domination et d'empathie, ça va vraiment demander une écoute sincère des émotions et des besoins de chacun. Voilà, et de renoncer à vouloir obtenir quelque chose de l'autre dans l'immédiat ou changer quelque chose en lui. Donc encore une citation, l'amour, dit-il, c'est aussi quelque chose qui se donne. Nous nous donnons de manière spécifique. C'est un cadeau que de se mettre à nu, de se révéler en toute sincérité, quelle que soit l'occasion, avec la seule intention de dévoiler ce qui est vivant en soi. Voilà. Est-ce que ça va?
C'est 9h, t'en es où? C'est presque 9h.
Ça fait presque une heure déjà.
Ouais.
Oh, oh là là.
Mais est-ce qu'on peut peut-être...
Eh ben, je peux juste faire... Là, je ferai pas là de la troisième partie. Mais juste, ça
faut
fait...
qu'on écoute aussi. Hein.
Ça fait ça. Ça va?
Ouais. Tu as pas vu des extraits, quoi?
Bah juste celui-là. Ouais, je veux que tu écoutes. Peut-être on va d'abord
écouter.
Et après, ok. Ça marche. Je suis désolée, j'ai mal évalué le
temps. C'est enthousiaste. Nous, on est ravis. Merci.
Alors, est-ce que c'est je crois que ça va se connecter automatiquement.
Je sais pas.
Qu'est-ce que tu nous fais écouter, Lia?
Donc là, on va vous faire écouter un extrait d'une conférence sur le soin psychique, c'est ça?
Oh, c'est ça, sur la maladie psychique.
Donc là, c'est vrai qu'on a... il y a toute cette théorie de autour de la violence. Mais il y a aussi tout le côté soin,
ouais.
Avec, comme tu le disais, peut-être que j'anticipe ce que tu vas dire après, mais sur cette façon qu'il avait de... Enfin, je prends ma casquette de médecin qui se démène avec mes collègues psychiatres et tout ça, et lui, il refusait catégoriquement de poser un diagnostic sur les gens. Et quand les gens venaient, je suis ou ma fille, mon fils est, il disait stop, ne me dites pas de diagnostic parce que je vais... ça va m'empêcher de rentrer en lien avec... Et donc, il y a un extrait où il parle d'une rencontre avec une patiente qui est très révélatrice. Je trouve, tu fais un essai peut-être...
Ouais.
Tu penses que tu es connu?
des gens qui sont en souffrance. Peu importe la langue qu'ils utilisent eux. Même s'ils restent silencieux. Par exemple.
Some parents heard me speak on the radio one day.
Il y a des parents qui m'ont entendu parler à la radio un jour.
And called me on the phone and asked if I would see their daughter who was in a mental hospital.
Et ils m'ont demandé si je serais d'accord de rencontrer leur fille qui était dans un hôpital psychiatrique.
They said she hasn't spoken in 3 months.
Ils m'ont dit ça fait 3 mois qu'elle n'a pas ouvert la bouche.
She just sits and stares at the floor.
Elle se contente de rester assise et de regarder le sol.
And she seemed to have gotten worse the more we've taken her to doctors.
Et il semble que plus on a essayé de la faire voir à des médecins, moins bien elle se comportait, moins bien elle allait.
And when I heard you talk on the radio today, we wanted to see what would be like if we tried what you were suggesting.
Et quand on vous a entendu parler à la radio aujourd'hui, on s'est dit que ça vaudrait peut-être la peine d'essayer votre méthode et voir si ça fonctionnerait dans son cas.
So they said, I said I'd be glad to see her. Just bring her into my office.
Et j'ai dit, mais volontiers, je serais heureux de la rencontrer, simplement amenez-la moi.
But they said, but she's in a hospital.
Et ils m'ont répondu, mais on peut pas, elle est à l'hôpital.
Yes, I understand.
J'ai dit, je comprends, oui.
Take her out.
Sortez-la.
Bring her to my office.
Et amenez-la à mon cabinet.
But she's not eating, she just sits there. If somebody didn't feed her, she would just sit there.
Mais elle va pas bien du tout, elle est juste assise, et si on la nourrissait pas, elle se laisserait aller, enfin, elle peut rien faire.
Yes, it sounds like it's going to be a lot of work for all of us.
J'ai dit oui, il semble que ça va être beaucoup de boulot pour chacun d'entre nous.
But take her out.
Mais sortez-la.
Because those kind of institutions, I think, make it matters worse.
Parce que ce genre d'institution, à mes yeux, aggrave les choses.
They convince people that there is something wrong with them.
Parce que ces institutions convainquent les gens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en eux.
I don't think there's anything wrong with your daughter.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui tourne pas rond chez votre fille.
It just sounds to me like she doesn't know how to make life wonderful.
La seule chose qui m'apparaît clairement, c'est qu'elle n'a pas l'air de savoir comment se rendre la vie belle.
So bring her into my office. We'll see how we can work together and learn how to make life more wonderful.
Alors amenez-la à mon cabinet et puis on va voir si on trouve un moyen de lui rendre la vie plus belle.
So they bring her in. The first day, they had to each be under one of her arms and lead her in, and they put her in a chair in my office.
Donc ils me l'ont amenée et le premier jour, il était nécessaire que chacun d'entre eux soit d'un côté et la tienne sous le bras pour qu'elle arrive à avancer. Et puis ils l'ont amenée, ils l'ont assise là.
And her first message to me was this.
Et son premier message à mon endroit était celui-ci.
She sits and looks at the floor.
Elle était assise comme ça, les yeux fixés sur le sol.
Her hands were shaking.
Et ses mains tremblaient.
Now, if I'm using non-violent communication,
alors, si j'utilise le langage de la communication non-violente,
the other person immediately is speaking the same language.
Je vois immédiatement la personne en face de moi parler la même langue que moi.
Because whether they communicate verbally or non-verbally,
parce que cette personne parle en utilisant les mots ou non,
I connect with what's alive in it.
Moi, je me mets en lien avec ce qui est vivant chez cette personne.
More specifically, that means that we connect with what the person is feeling and what needs are behind the feelings.
Et d'une manière plus spécifique, ce que je veux dire par là, c'est que je vais me mettre en lien avec les sentiments que la personne éprouve et les besoins qu'elle a à un moment donné.
Notice how different this language is.
Prenez conscience de la différence de cette langue.
This is a language of life.
Parce que c'est une langue qui va vers la vie.
What we're feeling and needing at any given moment.
Qu'est-ce que nous éprouvons et quels sont nos besoins à n'importe quel moment?
How different from thinking what we are.
Vous voyez la différence qu'il y a à formuler les choses comme ça plutôt que de se dire je suis comme ça, parler en termes de ce que je suis ou de ce que nous sommes.
So when she's sitting there like this, looking
alors elle était donc assise comme ça, les yeux fixés au sol et tremblant.
I try to connect with what's alive in her.
Et moi j'ai essayé vraiment de me mettre en lien avec ce qu'il y avait de vivant au fond d'elle.
What are her feelings? What are her needs?
Qu'est-ce qu'elle était en train d'éprouver et qu'est-ce qu'elle avait comme besoin?
This requires trying to guess, to sense.
Et ça réclamait de ma part d'essayer de percevoir ça et de deviner.
But notice, this is a different kind of diagnosis.
Prenez conscience que quand je fais ça, c'est une autre forme de diagnostic.
I'm not sitting there thinking what's wrong with her.
Je ne suis pas en train de penser depuis mon mental en termes de ce qui tourne par rond chez elle.
I'm trying to connect with what's alive in her right now.
J'essaie de me mettre en lien avec ce qu'il y a de vivant en elle dans l'instant présent.
So I said to her, are you feeling frightened?
Alors je lui dis, est-ce que vous vous sentez effrayé?
And need to be sure that it's safe to talk in here?
Est-ce que vous avez besoin d'avoir la sécurité que de vous sentir en sécurité pour parler ici?
See, I'm trying to commit with what's alive in there.
Vous voyez, c'était ma manière de me mettre en lien avec ce que j'imaginais être le plus vivant en elle à cet instant.
And here was her response.
Et voilà comment elle m'a répondu.
Continued silence.
Un silence qui s'est perpétué.
I guessed again what she was feeling and needing.
Alors là encore, je me suis mise en lien et j'ai deviné ce qu'elle pouvait bien éprouver et ce qu'elle pouvait avoir comme besoin.
I said, I'm guessing that you're so scared that even telling me you're scared is not easy right now. Is that what's going on?
Je lui ai dit, j'imagine que vous avez tellement peur que même me dire que vous avez peur est quelque chose que vous ne pouvez pas faire juste à l'instant. Est-ce que c'est ça?
Her response.
Elle me répond comme ceci.
So now I tried to share with her what was alive in me and what would make life more wonderful for me.
Alors à ce moment-là, j'ai choisi de partager avec elle ce qui était vivant en moi et ce qui se passait en moi.
I said, I'm feeling confused.
Tu dis, j'éprouve de la confusion juste là.
Because I'm not even sure you're hearing me.
Parce que je n'ai même pas la certitude que vous m'entendez.
And it would meet my need for a connection with you to at least know that you're hearing me.
Et ça répondrait à mon besoin d'établir le contact avec vous, de savoir au moins si vous m'entendez.
So would you tell me if you're hearing me or not?
Est-ce que vous seriez d'accord de me dire si au moins vous m'entendez?
Here was her response.
Et elle a répondu toujours de la même façon.
I said, I'm guessing that even to tell me that right now is pretty scary.
Alors j'ai dit, je devine que même de m'avouer ça, c'est trop effrayant pour le moment.
So we continued like this for about another 40 minutes.
Et on a continué comme ça pendant une quarantaine de minutes.
Am I trying to connect with what was alive in her?
J'essayais de mon mieux de me mettre en lien avec ce qui est vivant en elle.
Am I telling her what was alive in me?
Je lui disais ce qui se passait chez moi, comme ce qui avait de vivant en moi.
After about 40 minutes, I was exhausted.
Après une quarantaine de minutes, j'étais éreinté.
So I said that.
Alors je lui dis.
I said I'm exhausted right now.
Je dis j'en peux plus là, je suis sur le flanc.
I'd really like some rest.
J'ai vraiment besoin d'un peu de repos.
I'd like to continue our connection tomorrow.
J'aimerais pourtant continuer d'être en contact avec vous demain.
Would you be willing to come back?
Est-ce que vous seriez d'accord de revenir?
Here was a response.
Et sa réponse, encore une fois.
Le silence.
Dans ce cas, si je ne reçois aucune réponse de votre part, je vais demander simplement à vos parents de vous ramener.
The next day.
Le jour suivant.
The third day.
Le troisième jour.
The fourth day.
Le quatrième jour.
Finally on the fifth day.
Et tout à coup, le cinquième jour.
A new message.
Un nouveau message.
I was ready for a new message.
Moi, j'étais prêt pour un nouveau message.
It was still a non-verbal message.
C'était pourtant encore un message non-verbal.
She turned her face away from me.
Elle a détourné sa tête de moi.
And she put her fist up in my face like this, going.
Et puis elle a brandi son poing dans ma figure tout en faisant ce bruit.
So now I try to hear what is she feeling and needing, you see?
Et alors là, j'ai essayé de toujours la même chose, de me demander mais qu'est-ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle a comme besoin.
I said, are you angry at my bringing you in here every day? And are you just needing to be left alone?
Je lui dis, est-ce que vous êtes fâché d'être amené ici chaque jour et est-ce que vous voudriez simplement qu'on vous laisse tranquille?
I thought that was really what was going on.
Et moi, j'étais assez convaincu que c'était ça qui se passait.
But for the first time, she responded very directly to my statement.
Mais pour la première fois, elle m'a donné une réponse directe à ce que j'avais deviné.
She said, but she kept going like that.
Et elle a fait non de la tête, tout en continuant à brandir son poing vers mon visage.
Finally, I figured out what she was trying to say.
Et finalement, j'ai deviné ce qu'elle essayait de nous dire.
She had a message for me in her hand.
Elle avait un message en fait pour moi dans sa main.
She was rather ambivalent.
Elle avait quelque chose d'un peu ambivalent.
I had to pry open her fingers to get the.
Parce que c'est moi qui ai dû forcer ses doigts pour voir apparaître le morceau de papier.
And it said, please help me express what's going on inside.
Et ça, c'était écrit sur ce petit morceau de papier, s'il vous plaît, aidez-moi à vous dire ce qui se passe en moi.
We had been communicating very well for those 5 days.
d'une certaine façon, on avait communiqué très bien pendant ces cinq journées.
She needed me to keep hearing what was alive in her.
Elle avait besoin que je reste en contact avec ce qui était vivant en elle et que je continue à l'entendre.
To hear how frightening it was for her to say all of the feelings that were alive in her.
Elle avait besoin que je réalise à quel point c'était effrayant pour elle d'entrer en contact avec tout ce qui l'habitait et en plus de l'exprimer.
So that's the process.
C'est ça le processus.
Staying connected to what's alive in other people.
Rester en lien avec ce qui est vivant chez les autres.
Trying to hear what would make life more wonderful.
Essayer d'entendre ce qui leur rendrait la vie plus belle.
And revealing what's alive in us and what would make life more wonderful.
Et révéler ce qui est vivant en nous et dire aussi ce qui nous rendrait la vie plus belle.
I was working with some psychiatrist and psychologist in one hospital in the.
Ça va? C'est intéressant d'entendre la voix, je trouve aussi, de Marshall. D'ailleurs, je peux juste vous.
C'est vrai que c'était un cheval, hein, c'est un américain, tout à ce moment-là. Il avait une capacité à fasciner le public.
Pas très expressif. On imaginait. Ouais. Mais, j'avais imaginé quelqu'un de plus souriant.
Un peu placide, mais du coup, très drôle. Enfin, c'était un peu. Ouais, c'était un show, quoi. Hein.
Là, il y a une image juste de Marshall avec ses petites marionnettes.
Il avait juste des marionnettes et puis des fois il avait des oreilles de girafe. Donc il prenait ses oreilles hyper sérieux.
Hyper comme sérieux comme ça.
Alors, je vais vous montrer de loin parce que j'arrive pas à prendre le.
Tu peux débrancher ton. Ah oui, t'as pas plus gros ?
J'arrive pas à.
Si on voit un peu avec ses marionnettes.
C'était Marshall. Ouais. Il avait. Ouais, alors un œil très bien.
Après, sur YouTube, il y a plein de conférences, c'est très facile de regarder le voir à l'œuvre.
Ouais, moi j'ai failli acheter des marionnettes chacal et j'ai dit non, ça va être trop loin.
Tu peux le faire. Sérieux,
les oreilles, il y a des serre-têtes, des serre-têtes. Enfin, franchement.
Vous voulez faire un atelier chez Bernadette.
On a peut-être Bernadette.
Moi j'en ai fait des marionnettes. J'ai fait d'ailleurs partie d'un théâtre de marionnettes à Lyon. J'ai le fabriqué.
Voilà, vous allez être notre futur.
Le guignol, la girafe et le chacal, à mon avis, il y a moyen de faire
c'est clair. Un spectacle. Donc voilà, je termine juste là-dessus parce que je suis désolée vraiment d'avoir été trop longue. D'avoir un peu.
Tout se passe bien.
Très bien. Donc Marshall, lui, bon, il s'est comme vous avez vu, parce qu'après il parle des psychiatres. Alors, écoutez la vidéo en entier, c'est intéressant ce qu'il dit après sur le retour des psys sur lui. Donc il s'est dissocié un petit peu, même plutôt beaucoup, de la psychologie clinique, et en raison de ce qu'on pourrait appeler une opposition méthodologique, et parce que justement l'absence d'interprétation était fondamentale pour lui, c'était vraiment un grand principe vital de la relation, et elle s'applique aussi aux soignants. Et voilà, enfin, comme tout être humain, le soignant aussi va évoluer dans un cadre référentiel qui lui est propre, avec ses représentations, sa manière de percevoir le monde. Il va être gouverné par ses pensées, ses émotions, qui vont conditionner sa manière d'être et de concevoir l'autre. Et c'est ça, en quelque sorte, que lui, il pointe, c'est-à-dire la difficulté, l'impossibilité à venir théoriser l'autre à partir de nos propres projections, de nos présupposés, d'abreuver quelqu'un de nos a priori, sans vérifier avec lui que ce qu'on suppose peut être vrai ou pas. Et donc ça va risquer fatalement de créer une sorte de distorsion entre la perception que j'ai de l'autre. Est-ce qu'il est réellement, ou ce qu'il ressent réellement. Donc il y a une dissonance entre les mondes et ça ne va pas du tout aider à la reliance, aux soins, à rien du tout. Donc la CNV, elle va plutôt inviter à se positionner dans une présence curieuse, attentive, qui reste vraiment centrée sur les perceptions qui affluent en nous, toutes les émotions, ce que Marshall dit, ce qui est vivant en nous, et se tenir vraiment là dans le mystère de la rencontre, et continuer à tourner autour de cette énigme, parce que l'autre va, évidemment, il se dérobe chaque fois que je veux le saisir, mais en même temps, voilà, nous avons quand même aussi des frontières communes et une manière justement de nous relier, notamment pour marcher à travers les besoins, ou vraiment en tout cas rester connecté à ce qui est là, à ce qui vit ici et maintenant. Donc voilà, c'est très dur, mais ce qu'elle propose, la CNV, et Marshall, je pense, c'était vraiment un ovni, hein, parmi les psychologues de son époque. Mais elle nous invite vraiment à ne pas interpréter ou surinterpréter les intentions qui ont motivé les réactions d'une personne, ne pas établir de diagnostic pour éviter de réduire, de classifier, de projeter sur l'autre notre univers de sens et nos conclusions sur ce qui pourrait être la réalité clinique. Et donc voilà, ce qu'il fallait éviter pour Marshall, c'était justement de venir plaquer des évaluations, mais de rester dans une présence connectée qui pour lui était vraiment déterminante dans le processus de soins, quand il s'agit d'une présence vraiment engagée, ouverte et compassionnelle. Et comme vous avez vu, et comme vous avez vu aussi, que lui ne s'exclut pas du processus de soins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, trouvant aussi peut-être la limite dans le silence de l'autre, dans voilà, et ben il va revenir, il va exprimer aussi ce qui est vivant en lui, par quoi il est traversé. Donc en fait, la CNV, c'est là où je trouve qu'elle se rapproche beaucoup de la phénoménologie.
Et de la Gestalt.
Et la Gestalt, j'imagine, aussi. C'est vraiment qu'elle va inviter l'autre à... elle va laisser le champ libre et elle va laisser l'autre advenir comme il est, en fait. À se mettre uniquement au contact de ce qui est vivant en lui à un instant donné. Et en lien avec cette part du vivant qui n'est pas maîtrisable, qui est une sorte de manifestation pure, animée, mouvante et immédiate. Et cette manière de recevoir l'autre dans son surgissement permet vraiment d'avoir une approche non directive qui va mettre l'accent sur l'exploration du vécu, sur le lien qu'on est en train de vivre ensemble. Et dans ce processus, justement, quand je vous disais que la pensée de Marshall était très circulante, c'est qu'on va... On va vraiment obtenir cette circulation d'une énergie qui ne peut être là que dans l'instant, en fait. Et que si on est disponible entièrement à recevoir le vivant chez l'autre et chez nous-mêmes. Et que en tant que soignant, on peut aussi s'inclure dans son self réel, entre guillemets, dans la rencontre pour faciliter cette humanisation des rapports. Et ne pas faire de concessions, en fait, avec la vie qui est en nous, quoi. Voilà. Du coup, je vais peut-être pas faire la troisième partie, parce que ça va être... Ou j'en parlerai peut-être dans le débat à un moment, mais je dis, c'est pas si long encore, mais quand même.
Après, je préfère laisser le temps. Tu peux parler des écoles Girap et des médiations dans les zones de guerre,
quoi,
juste rapidement.
Ouais, c'est ça, parce que... c'est vrai que lui, c'était un médiateur, donc il est intervenu dans beaucoup, beaucoup d'institutions américaines, mais pas que. Enfin, dans des écoles, il s'est énormément intéressé à l'éducation, dans les prisons, avec aussi des prisonniers très, très durs, auprès des défenseurs des droits civiques. Il voulait inclure ça même dans les institutions judiciaires et militaires. Il s'est intéressé beaucoup à la justice réparatrice, ce qu'on appelle aussi restaurative. Il est intervenu vraiment dans des situations de très haute tension dans des pays en guerre, quoi, et notamment en Israël, en Palestine, et aussi en Europe de l'Est et en Irlande. Et il voulait vraiment se sortir de cette logique aussi de vengeance et de ravage.
Au Rwanda aussi.
Ouais. Donc voilà, il voulait vraiment laisser un héritage solide à grande échelle et avec les structures. En fait, il a fondé en 1966 une organisation internationale, voilà, C'est le Centre pour la communication non violente. Et il a fait éclore aussi plusieurs écoles girafes, notamment en Israël, où d'ailleurs apparemment ça a vraiment donné des résultats assez incroyables au niveau de la baisse des violences, quoi. Et il part toujours du même principe, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vivant en nous et que pouvons-nous faire pour nous rendre la vie la plus belle possible à nous-mêmes et aux autres. Voilà. Je vais passer sur le reste. Je vais juste vous raconter, peut-être pour terminer, l'anecdote de son fils qui raconte dans une de ses vidéos que j'aime bien en essayant de ne pas trop déformer. Parce qu'en fait, son fils, donc, il l'avait envoyé dans une école girafe, hein, là, au début de son enfance. Puis à un moment donné, il a dit bon, bah, je ne voyais pas de raison pour qu'il ne connaisse pas lui aussi les écoles chacales. Donc je vais le mettre dans une école chacale, une école classique, quoi. Enfin, oui. Et donc après, son fils rentre le premier jour et Marcel lui demande alors, c'était comment cette première journée. Et son fils, il lui dit bof, oh là là, les profs, j'étais à peine arrivée. Qu'il y en a un, alors je sais plus si c'est le proviseur ou quoi, qui vient vers moi et qui me dit oh la jolie petite fille. Et en fait, Marshall dit bah, voyez-vous, mon fils a les cheveux longs. Donc en fait, c'était une humiliation, évidemment. Et donc il demande à son fils et alors, qu'est-ce que. Voilà, est-ce que tu as vu où il voulait en venir? Et il disait bah oui, c'était évident, il était énervé, il voulait que je me coupe les cheveux. Et Marshall lui demande après, toi alors qu'est-ce que tu ressens? Et lui dit, ben moi je me sens triste pour lui parce que tu vois papa, il était chauve. Voilà. Non. Ouais, je vais m'arrêter.
Bravo Olivier.